j'ai plus de voix.
Ça s'entend pas.
J'ai trop parlé à l'Angers Geek Fest ce week-end. Vous aussi?
Bon, ça,
un
allez.
Petit peu.
Disons que trop parler, non, parler fort au-dessus de la musique, déjà plus, oui.
Et derrière le masque.
Et derrière le masque. Concerne.
Bon, on n'a pas entendu parler d'un gros cluster et tout dans les news comme
Angoulême. Pour l'instant, mais il est trop proche. Si on n'entend pas parler d'un cluster, ça sera d'ici la fin de la semaine. Et oui, il va y avoir un cluster énorme sur Angers, puisque 14 000 visiteurs se sont agglutinés.
C'était pas 12 000 plutôt ?
Non, ça c'était l'année dernière. 14 000 se sont agglutinés à l'Angers Geek Fest ce week-end. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de monde.
Bah, tant mieux.
Ah. Je suis fatigué.
C'était aussi l'occasion de découvrir le M42 deuxième volet qui était présenté. Donc le M42 est une anthologie.
C'est un MOOC.
C'est un MOOC qui est produit par l'entreprise Leno, l'organisatrice de l'Angers Geek Festival, et qui propose 42 articles sur le thème de l'année. Donc là, c'était le Geek Fest au féminin, décliné en...
Le Geek au féminin.
Le Geek au féminin, excuse-moi. Le Geek au féminin. Donc il y avait 42 articles de personnalités différentes pour parler de ça. Et nous en accueillerons d'ailleurs une à Imaginaire qui se passera les 14 et 15 mai prochains. Bénédicte Coudrière.
Au Salon Kurnanski.
Exactement.
Et dans le cadre de ce thème, on a fait une très belle table ronde. J'espère que vous y étiez.
Pierre pour Marie. Discuter de la première super-héroïne. Alors, ah oui, j'ai révisé mon pitch à fond. Mais... Si vous aimez les super-héros, en tête d'affiche, les écuries Marvel, DC Comics et Imagine Dragon. Non, ça, c'est un groupe de musique. Et Black Horse et Imagine Comics.
Dark Horse,
ouais. C'est ça, et Imagine Comics. Eh bien, vous, ça ne le savez peut-être pas, mais les super-héros sont un mythe littéraire français à la base, qui a été plus ou moins perdu sur l'entre-deux-guerres, qui est parti avec les soldats venus dans nos tranchées aux États-Unis, qui est revenu pendant la Seconde Guerre mondiale avec les comics en images. Et donc, nous n'avons de souvenirs en France que des super-héros américains qui sont arrivés, mais la base des super-héros est française. Et l'Angers Geek Fest a été l'occasion de ressusciter la première super-héroïne de l'histoire de la littérature. C'est Loisel, Vega la magicienne.
Voilà. On avait eu Ronald Bousseau au téléphone dans notre dernière émission.
Exactement.
À ce propos, vous pouvez le réécouter sur notre page podcast sur le site de Radio G. Et on accueillera... Aussi, Ronald, si vous n'avez pas votre Loisel dédicacé, vous pourrez le faire effectivement au prochain Salon Imaginaire, puisque l'éditeur aussi,
Banquise et Comet, sera là. Alors, en off devant nos 35 000 auditeurs.
Je baisse ton micro alors.
Le Banquise et Comet a décidé de ressusciter pas mal de vieux textes qu'on a plus ou moins oubliés.
Oui, c'est un peu leur spécialité.
Mais il va y avoir un personnage du folklore parisien, encore une fois, qui va ressusciter Belphégor.
Ah, ouais.
Sans transition, Karine.
Si on écoute vas-y, Karine, alors on met son générique.
Ah bah vas-y, transition.
Allez, hao.
Ah, tu vois, je la fais super bien.
Non, je préfère la musique. Donc je vais.
T'as plus de voix non plus, toi.
Si, j'ai de la voix.
Bon.
Mais sauf que j'ai une petite voix. Ça change tout. Donc, je vais vous parler de Nuit Noire, qui est le premier tome d'une série en 4 tomes, Les Aventures d'Hector Vallant.
Et moi, j'ai oublié un truc super important, c'est qu'on va écouter quand même dans l'interview, dans l'émission.
C'était un secret, c'était une surprise.
Oui, on écoutera l'interview de Romain Lucaso quand même.
Tu casses
Michel, imaginez tout. Non, mais j'aurais dû le dire il y a quelques minutes, oui. Donc je coupe la chronique de Karine.
Il n'y a pas de souci. Je reprends donc.
Ouais.
Avec Michael Guittard, l'auteur, qui nous amène sur les traces d'Arsène Lupin, une grande inspiration de sa part. Et en ce sens, le personnage d'Hector Vallant est libraire le jour et cambrioleur la nuit. En effet, il prend un malin plaisir à découvrir et dérober de précieux ouvrages pour les clients de sa librairie. Nommé Pénélope, un drôle de nom, mais qui lui est cher, car c'est un héritage familial.
J'ai pas compris, c'est la librairie s'appelle Pénélope.
Oui,
d'accord.
Tout à fait. Et donc, Hector Vallant, le personnage principal, est traîné dans une soirée mondaine et prend part à une séance de spiritisme qui tourne au cauchemar. Un être maléfique semble s'être réveillé et un meurtre a été commis. Elena, une jeune journaliste, était également sur les lieux et va se mettre à enquêter sur cette affaire. Mais ce ne sera pas l'unique affaire à traiter. Des meurtres non élucidés vont remonter à la surface, tandis que d'autres vont s'ajouter à la liste du prédicateur. Est-il réel? Pourquoi agit-il ainsi? Il va falloir plonger dans cette lecture pour y percer ses mystères. Michael Guittard joue la montre avec une écriture qui tient en haleine, des chapitres courts et dynamiques, du suspense jusqu'au bout. Les personnages sont bien construits, tout particulièrement ceux d'Hector Vallant et d'Elena qui tentent d'échapper en quelque sorte à leur destin. Leurs chemins vont se croiser à un moment crucial dont ils ne sortiront pas indemnes. Nuit est donc un roman policier prenant, tant par une certaine maîtrise du suspense et la dynamique qui transparaît dans le récit. L'auteur laisse également une réflexion sur la famille, l'héritage, le sens et les conséquences de nos choix. Michael Guittard est un auteur en haute édition, diplômé en histoire contemporaine. Il a écrit les 4 tomes des aventures d'Hector Vallant en 15 ans, dont le dernier a été publié en 2020. Et vous pouvez donc retrouver la suite de Nuit Noire avec le mystère Vessatio, le tome 2, Matt, le tome 3. C'est donc Ici que je meurs, le tome 4, et je vous invite à découvrir sa plume et les aventures d'Hector Vallant, que vous aurez sans doute apprécié si vous aimez Arsène Lupin.
Ça se passe en quelle année alors? Parce que les aventures d'Arsène Lupin, c'était vraiment tout début du XXe siècle. Hein.
Alors ça se passe à 1905. Paris. En ouais. 1908.
D'accord, ok, donc c'est vraiment la même époque.
Voilà. Et donc maintenant, je vous propose d'écouter la chanson Soldier of Heaven du groupe Sabaton.
Sabaton. J'adore ton accent anglais.
Sabaton.
Snow that binds me to this mountain.
Et un morceau qui fait d'ailleurs référence à un événement qui s'est passé au tout début du XXe siècle, hein, Karine. Ah, ça me demande de quoi ça parle, Karine.
Non, Nadia.
L'histoire et moi, ça fait deux. Donc,
Et c'est quoi, Soldier of Heaven, c'est, on va dire, un hommage à des soldats qui sont morts pendant une avalanche, il me semble, en 1915, quelque chose comme ça, pendant la Première Guerre mondiale. Des soldats des deux camps, hein, du côté des Alpes ou quelque chose comme ça. C'est un groupe allemand, Sabaton, ça. Hein.
Oui,
ouais, c'est même
crois.
Pas.
Aïe. Mais j'écoute de la musique, c'est pas forcément.
Bon, moi j'ai un petit peu de mal. Ouais. C'est bon. Ils ont un discours peut-être anti-militariste, mais quand même, je les ai vus en concert et les gars arrivent quand même avec des chars sur scène. Donc, je me demande s'ils trouvent pas ça un petit peu cool quelque
ouais,
part.
Enfin, Rammstein n'est pas loin dans le même style. Hein.
Ouais, Rammstein, ils assument plus ou moins, sachant qu'il y a pas mal de second degré quand même aussi dans tout leur band. Alors.
Alors quoi?
Donc avant d'écouter l'interview de Romain Lucaso, donc écrivain de science-fiction français que vous aviez interviewé avec Romuald aux Utopiales.
Oui.
Donc ça remonte à novembre dernier.
Ça remonte un petit peu.
On parle de l'Angers Geek Fest.
Hein. Oui, moi j'aimerais bien dire deux trois choses sur le Geek Fest parce que on y est passé très très vite. Alors ça a été l'occasion de rencontrer des personnes extrêmement intéressantes. Oui, excuse-moi. La première étant une personne que je connaissais de nom, d'envergure, de réputation et tout ce qui va, mais que je n'avais jamais croisé. Et pour moi, c'était un truc qui me manquait.
Ah, je sais qui c'est.
Ce n'est pas Christelle Dabos.
Ah, mais
je suis désolé, ce n'était pas elle. Non, c'était Brigitte Lecordier.
Voilà.
Alors, Brigitte Lecordier, quand j'en parle, on fait mais c'est qui? Mais
eh oui.
Si, c'est la voix de. Ah, je sais, de Sangohan.
Alors, vas-y, fais-nous-le.
Ah non,
fais-nous la voix de Sangohan.
Non, alors déjà, je ne sais pas parler anglais, je ne vais pas en plus parler japonais. C'est une personne qui a fait. Beaucoup de voix, et elle est notamment connue pour Sangohan et ce qu'elle a fait dans les et Son Goku dans les Dragon Ball, jusqu'à Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, j'étais tout ça, et moi c'est pas du tout ça que je l'ai connue, c'est
ah bon?
Non, c'est oui.
Ah oui.
Excusez-moi d'avoir une autre génération.
Donc elle fait des voix, c'est une doubleuse de voix,
c'est une doubleuse de voix infantile. Elle a fait énormément de
mais,
voix
et dans
des
dessins animés,
pas que
films d'animation,
pas que. Elle a bossé dans pas mal de films et d'ailleurs il y en a deux que tu aimes. Retour vers le futur où elle joue toujours des figurants. Enfin, elle double toujours des figurants. Très bien, admettons. Et Willow aussi.
Ah ouais.
Elle fait des choses. Bon, elle a pas arrêté sa carrière. En 2020, elle était toujours en train de faire des doublages. Sa spécialité, ça reste quand même les dessins animés, puisqu'elle a été dans quasiment tous les Ghibli. Dès qu'il y a une voix d'enfant un Ghibli, tu peux être sûr, allez, à 60-70% qu'elle y est.
D'accord.
Elle a fait Astérix, par exemple. Le domaine des dieux, elle y est aussi.
Ah ouais, quand même.
Non, c'était quelqu'un qui... C'est une voix que tout le monde a entendue à un moment donné, que personne n'arrive à mettre de nom dessus, mais c'est quelqu'un qui a été extrêmement importante pour la culture de beaucoup de personnes.
Mais du coup, quand elle parle au naturel, est-ce qu'on reconnaît cette voix?
Non. C'est ça qui est assez extraordinaire, ouais. C'est que quand elle parle au naturel, ou alors, en tout cas, tu reconnais quelques tics de langage, à la limite, mais tu reconnais pas ses intonations. Mais elle a fait quelques démonstrations de doublage, puisqu'il y avait une autre doubleuse, je suis désolé, j'ai perdu son nom, et c'est pas bien. Mais sur leur interview, sur leur table ronde où elles étaient en train de parler du métier d'actrice de doublage, elles ont fait un concours de voix, quoi, en discutant, en changeant les voix, ce qui donnait des choses intéressantes. Bon, c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu sur les choses qui étaient très importantes, puisqu'on parlait là du thème du Geek Fest, qui était le geek au féminin, et ça s'est beaucoup revu, trouvé à la fois dans le choix des personnes invitées, on parlait là donc de Brigitte, mais de Christelle Dabos aussi, qui était là, qui est la marraine de l'EEGP. Alors vous dire, c'est le chronique de quoi, je ne sais
trois
pas.
Trois marraines d'école des arts appliqués.
C'est ça, sur la publicité, tout à fait. Ils sont trois parrains marraines dedans, Christelle Dabos, Tony Murio et j'ai loupé le troisième, dis donc ce soir j'oublie plein de personnes. Christelle Dabos était là et le vendredi elle était en dédicace à l'école, et l'idée dans cette école c'était de faire travailler des gens dans le graphisme et dans la littérature, et donc un personnage féminin, une personnalité féminine forte était assez importante.
Et donc on leur a demandé en fait de dessiner des scènes ou des décors de la quadrilogie du passe-miroir,
exactement.
Ok, un peu sa grande œuvre.
Mais ces deux personnes-là, Brigitte et Christelle, quand elles arrivaient dans l'espace de dédicace, il y avait une file pour les attendre et on ne voyait plus rien. Il n'y avait personne d'autre qui existait à côté.
Alors Christelle Dabos, quand même, vous avez entendu parler du Pass Culture, qui doit être un dispositif relativement récent, où on donne un genre de chèque aux jeunes de 15 ans, je crois, pour aller s'acheter des livres.
Ouais.
Et en fait, a été publiée la liste des 20 premiers titres qui ont été achetés avec ce chèque dans les librairies. Et parmi ces 20 titres, il y a 18 mangas.
Et Christelle Dabos.
Et aussi un livre écrit par une youtubeuse. Bon, c'est dire quand même la popularité de Christelle Dabos, et on va dire cette réussite éditoriale dans la littérature jeunesse. Mais pour ceux qui l'ont lu, le passe-miroir aussi, ça plaît beaucoup aux adultes.
Il y a un double niveau de lecture qui est assez intéressant. Un peu à l'image de Harry Potter à une moindre échelle, non ? J'ai perdu l'autre. Le miroir des anges, c'était la série de Pullman à la croisée des mondes,
ouais,
c'est ça, excusez-moi.
Ouais.
Qui avait un double niveau de lecture qui était vraiment très intéressant. Je te coupe rapidement. Dans l'organisation du Geekfest et dans toute sa programmation, dans les tables rondes, c'était extrêmement orienté sur cet aspect féminin, parce que féministe aussi, mais très très féminin dans le choix des intervenants. C'est bien de parler des femmes, mais c'est bien de parler avec des femmes sur les femmes. Et ça s'est vu. Donc nous, on y présenter deux tables rondes, une sur les super-héros, on a parlé de la première super-héroïne, mais c'était vraiment très anecdotique. L'autre, c'était l'occasion de rencontrer Alex Fouilleroux, qui a intervenu sur une table ronde que j'animais et avec Roxane Dambre. Et Alex Fouilleroux, qui est une découverte assez sensationnelle, qui est une vulgarisatrice scientifique pour des manuels scolaires. Et donc, très au fait des dernières découvertes, notamment tout ce qui était SVT, sciences humaines, etc. Assez intéressant. Et la table ronde sur la place de la femme dans les arts et dans les sciences était très intéressante.
On aurait dû l'enregistrer. Fallait y être, c'est tout.
À côté de ça, il y avait donc l'évolution des personnages féminins dans les dramas coréens. C'était l'occasion d'en parler, puisque Squid Game.
Je ne l'ai pas regardé. Il y a des femmes dedans quand même.
Il y en a quelques-unes. Est-ce qu'elles sont des personnages forts féminins ? C'est des personnages féminins.
Elles meurent tous au bout de 10 minutes,
c'est
d'accord.
C'est autre chose. Non, les dramas coréens. Alors, Squid Game est un petit peu le sommet de l'iceberg, mais les dramas coréens ont eu, un peu comme la K-pop, une grande notoriété en France, qui sont assez binge-watchés sur les plateformes qui apprécient ça. Et c'est vrai qu'il y a toute cette question aussi de la représentation féminine, parce que c'est quelque chose qui se pose comme question. Les femmes et les hommes le jouaient ensemble. Il y avait cette magnifique étude qui avait été sortie par Blizzard sur WoW, avec le nombre de personnages féminins qui étaient joués et le nombre de joueuses qui jouaient réellement.
Ouais.
Et puis surtout les interactions joueurs-joueuses quand il y a l'anonymat d'internet qui rentre dessus. Je crois qu'on était à 75-80% de personnages féminins pour un peu moins de 20% de joueuses, si je me souviens bien de l'étude. Et le fait qu'il y ait une sorte de discrimination positive ou de misogynie positive, où les joueurs, quand ils s'attendent à jouer avec une femme, les surprotègent, tout ça, et ça pouvait être un peu embêtant envers les joueuses. T'as quelque chose à dire, Karine ?
Ah non, mais c'est pas que dans les jeux. C'est également dans la réalité.
En tout cas, si on parle de joueurs-joueuses, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de joueuses maintenant en France aujourd'hui, apparemment, que de joueurs. C'est un monde qui a changé.
C'est un peu comme le monde du jeu de rôle, et puis même le...
Ça n'a pas changé autant dans le jeu de rôle.
Ça dépend. Je te renvoie vers nos compagnons de Fondue au Noir qui sont copains avec une association de jeux de rôle et qui te disent le contraire. Effectivement, les vieux groupe de jeux de rôle entre eux, bien lourd, bien beauf, il y a toujours aussi peu de femmes, c'est-à-dire quasiment zéro, mais dans les associations d'initiation ou dans les associations plus ouvertes, il y a déjà beaucoup plus de femmes qu'il n'y a à 15 ans, il n'y a pas de souci pour ça. Et c'est ce qui
ouais, peut-être, c'est... mais elle reste minoritaire comme un fond. On demandera au club en jeu.
Et alors ?
Oui.
De même pour les jeux vidéo, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient programmatrices, dessinatrices, graphistes, tout ça, le fait qu'un jeu vidéo ne soit pas pensé uniquement pour les fantasmes masculins comme on a tellement l'habitude d'avoir sur les armures de personnages féminins de médiéval fantastique. Je repense à Shaya, je repense à Final Fantasy, je repense à pas mal de grands jeux des années 2010. Extrêmement intéressant. À partir du moment où tu as des personnes qui pensent différemment, y a des joueuses qui se sont un peu plus intéressées. Effectivement. Mais non, non, c'était assez intéressant, assez diversifié dans la manière d'aborder les sujets. Et puis, c'était pas. Je vais me faire descendre, mais c'était pas un congrès féminazi. C'était un état des lieux en disant voici les évolutions qu'il y a eu sur tous les sujets. Là, je vous parlais des dramas coréens, je vous parlais du jeu vidéo, mais c'est aussi les personnages, l'évolution des personnages féminins dans les comics. On parlait de la première super-héroïne qui était une super-héroïne écrite par une femme à Angers. Le Catwoman est un personnage américain et son évolution est assez époustouflante. C'était une faire-valoir totalement fantasmagorique dans Batman. Elle a eu sa propre série, elle a eu sa propre vie. C'est devenu un personnage phare LGBT. Il y a une évolution. On apprécie ou on n'apprécie pas peut-être, mais les personnages féminins, Poison Ivy, la magicienne dont j'ai perdu le nom, Red Canary, ce sont des personnages qui... Tu regardes les comics des années 80-90, moins il y avait de tissu, plus elles avaient d'intérêt et d'importance dans l'histoire. Alors que maintenant, Supergirl, qui change de costume et sa jupe raccourcie de 10 cm tous les 15 épisodes. Oh, heureusement que ça évolue.
D'où l'intérêt de continuer à regarder la série. C'était des comics.
Non, les tables rondes étaient très intéressantes. Il y a eu des choses.
Il y a une table ronde sur les personnages féminins dans Star Wars aussi.
Il y a eu ça, mais il n'y a pas eu que ça. On va dire que c'était pas vraiment. C'était la dominante de la programmation. Mais on a parlé aussi Quidditch, on a parlé des jeux vidéo et des consoles. Je cherchais le mot, dis donc, je suis fatigué ce soir. Les consoles des années 80-90, ça s'appelait. Est-ce que tu as connu ça? Et donc, on retrace tout ce qui s'est passé dans les années 80-90 pour une vieille génération. Il y avait un stand de rétro gaming où on pouvait se refaire une jeunesse en rachetant les jeux de notre enfance.
Et
en disant ça, j'ai un peu.
Et d'ailleurs, on avait un public un peu double générationnel quand même, avec justement. Les vieux comme moi qui sont plus rétro gaming, mais il y a aussi, on a. Génération.
Le concours de cosplay avec une trentaine de participants, tous d'excellente qualité. Une démonstration de cheerleading de l'équipe angevine, les cheerleaders, jupe courte et pompons. C'est pas mal.
Bon, est-ce qu'on s'écoute un extrait musical? Je voulais vous passer au Gezor, ils étaient venus à l'Angers Geek Fest,
non,
à la première
non,
édition.
Non, ils sont jamais venus. Non, au Gezor n'est jamais venu.
Ouais, mais justement, ils s'appelaient Entropie Zéro à l'époque. Et ils étaient trois, et maintenant, ils sont deux. Et ils sont basés sur Nantes. Et donc, on s'écoute le single de Louvre Vert, l'album, dont j'ai oublié le titre, mais il sort le 8 avril, donc c'est dans 3 jours. Voilà, on s'écoute ça sur le 101.5 au Gezor. Un petit côté western. We'll be right back. Ogezor, donc dans l'imaginaire sur le 101.5, un extrait de leur album Distortion Process qui sort dans 3 jours. Alors il n'y a pas que l'album qui sort, avec ils sortent un e-book pour aller plus loin dans la description de leur univers de science-fiction. Donc on va regarder un petit peu ça, c'est intriguant et je pense, j'ai l'impression qu'il y a aussi un jeu vidéo qui va avec. Donc il faudra qu'on réaccueille les membres de Gezor dans cette émission peut-être pour retirer ça au clair.
Ah mais quand ils veulent.
Et d'ailleurs ils seront au Bordeaux Geek Fest le 28 mai. Voilà. Donc ils continuent sur leur lancée.
Alors 28 mai, nos auditeurs vont devoir choisir entre le Bordeaux Geek Fest et les Imaginales. C'est un peu à l'autre bout de la France. Mais...
Alors on va écouter...
Lucaso.
On écoute l'interview de Romain Lucaso, tu peux nous redire un petit peu, ouais.
Oui, ça avait été fait à l'occasion des Utopiales en 2021. Donc
c'est novembre dernier, mais j'ai réécouté l'interview. Romain n'a pas sorti de nouveau roman depuis, donc ça me paraît pas trop.
Et c'était à l'occasion, alors un petit peu tardive, mais de sa sortie, c'était La Nuit du Faune qui était paru chez Albin Michel Imaginaire. Donc il parlait un petit peu de comment est-ce qu'il en était arrivé là et qu'est-ce qu'il essayait de faire passer, parce que ce roman est très très clivant. Soit on kiffe pas du tout. Et c'est assez intéressant de voir la réaction des personnes et d'en discuter. Je vous laisse l'écouter.
Donc interview que tu avais fait avec Romuald.
C'est parti.
L'association Imaginaire est ravie de rencontrer Romain Lucaso.
Bonjour.
Tu as été enseignant avant de devenir un consultant. Et en parallèle de ça, tu as publié des nouvelles entre 2007 et 2010.
Absolument.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur cette période-là?
C'était la transition entre le monde de l'université et le secteur privé, enfin les activités de consultant, qui m'ont amené à écrire de la science-fiction. Mm-hmm. Parce que mon approche de la science-fiction, c'était justement de réinjecter des choses que je faisais plus en tant qu'universitaire, en tant que chercheur. Moi, mon truc, c'était de faire de la philosophie politique, de la science politique avec une très forte composante théorique, quoi. Mm-hmm. Et donc j'ai réinjecté toute cette théorie dans l'écriture de la science-fiction. Donc c'est pas anodin effectivement ce passage-là, et c'est pas anodin que j'ai justement commencé à écrire de la SF quand j'ai quitté l'université.
D'accord. On trouve assez facilement sur tes biographies diverses et variées sur le net que tu as été consultant. Est-ce que tu peux parler de cette partie-là, puisqu'on ne trouve que le terme consultant?
Oui, alors j'ai travaillé pendant 15 ans comme consultant dans des boîtes internationales, mm-hmm. où j'ai accompagné des gouvernements, des institutions publiques à l'international, d'abord et puis ensuite en France, notamment sur tout ce qui tourne autour de stratégies de développement économique. Mm-hmm.
C'est une information qu'on retrouve où tu aurais fait de la prospective sur de l'économie notamment un peu plus tard. C'est à cette période-là que tu as été, on va dire, chroniqueur, à défaut d'autres termes, où tu as fait des articles alliant la philosophie, la science-fiction et la place de la philosophie dans la science-fiction.
Oui, j'ai écrit quelques articles, en effet, à cette époque-là, notamment pour une revue qui s'appelle Brin, qui est une revue québécoise, qui est très sympa. Mm-hmm. J'en ai écrit un ou deux autres. Moi, j'essaye de ne pas avoir une production théorique, parce que je suis un auteur de SF, donc j'essaye de ne pas être un critique de SF. Mm-hmm. Par contre, la question de comment ça s'articule, ou la façon dont... Enfin, la composante philosophique de la science-fiction, c'est quelque chose sur laquelle je reviens régulièrement. Là, je viens de faire une interview pour Philosophie Magazine, où je suis encore revenu là-dessus. Enfin, ça fait partie des trucs qui tournent un peu dans ma tête. Et je me rends compte, avec le recul, que des choses que j'ai pu aborder à cette époque-là dans ces chroniques, dans cette revue québécoise, mm-hmm. En fait, on retrouve les mêmes thématiques dans La Sciam et dans La Nuit du Faune. J'ai pas bougé, quoi. C'est terrible, mais c'est vrai.
Alors, on parle de ça, si mes informations sont exactes, on est sur les années 2010. Or, tu viens de le dire, La Sciam est sorti en 2016. Ouais. Les romans en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là?
J'ai écrit le roman.
6 ans pour écrire un roman. Ouais. Alors, vas-y, raconte-nous un peu.
Et j'ai fait un premier jet, ça faisait 300 pages, et je me suis dit ensuite, oula, ça va être compliqué, c'était un premier roman, donc je savais pas totalement faire. Donc j'ai fait un gigantesque plan détaillé, aussi détaillé que possible, et là j'ai compris comment on faisait un plan détaillé de roman. Il y a des gens qui ne comprennent pas, moi j'en fais. Et puis ensuite j'ai écrit un deuxième jet, et puis ensuite je me suis dit, oula, les batailles spatiales ça va pas du tout, donc j'ai écrit toutes les batailles spatiales. Et puis après je me suis dit, en fait il manque une catégorie de personnages, et donc j'ai réécrit encore tout le truc, et puis ça m'a pris 6 ans, quoi.
Alors, Pour ceux qui ne le savent pas, La Suum, c'est en fait deux livres sortis à quelques mois d'intervalle chez De Noël. Donc c'est ton premier roman qui est directement une épopée space opéra.
La Suum, c'est un space opéra. Mm-hmm. Ça se passe après la disparition de l'humanité. Donc il n'y a plus d'humains, ils sont tous morts. Mm-hmm. Juste après, en gros, le moment où ils ont conquis Mars. Voilà. Ils laissent derrière eux une race d'intelligence artificielle qui ont été leurs serviteurs et qui savent faire que servir les humains. Donc les intelligences artificielles en question, elles se retrouvent le bec dans l'eau puisqu'elles n'ont plus d'humains à servir, donc leur programmation leur intime de protéger l'humanité. Donc elles se lancent dans une recherche effrénée pour essayer de trouver dans l'espace quelque part le moindre brin d'ADN qui permettrait de reconstituer les humains. Et l'histoire commence en gros par un événement où une de ces intelligences artificielles qui s'est transformée en un énorme vaisseau spatial et qui est restée pendant des siècles silencieuse vraiment aux confins de l'espace habité reçoit un signal qu'elle interprète comme une piste menant éventuellement à une résurrection de l'humanité. Et donc c'est un roman, donc c'est un space opéra, il y a des batailles spatiales, il y a tout l'attirail, et vraiment je l'ai positionné toujours comme un hommage au grand space opéra, mais c'est un space opéra inversé. C'est en général, souvent dans des space opéra, vous avez les derniers résistants qui cherchent l'arme ultime pour faire changer le cours de la guerre. Et là, c'est les dernières armes ultimes, enfin c'est les armes ultimes qui cherchent un humain pour pouvoir les opérer. Vous voyez, une espèce d'inversion rigolote.
Mmh. Alors, avant de partir sur ce sujet-là, puisque j'ai plein de questions en lien avec ça, sur ces 6 années, tu as quand même eu des productions de nouvelles.
Pas tant que ça. Non, c'était du stock de guerre.
Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement ?
De nouvelles ? Mes nouvelles, elles sont. Moi, je les aime pas beaucoup parce que c'est un peu des bancs d'essai. Il y en a une qui va sortir bientôt, qui a longtemps été bloquée dans les tiroirs d'un éditeur de revue que je nommerai pas, mais que j'ai trouvé très indélicat sur ce coup-là, et qui va sortir bientôt dans une anthologie et qui en fait s'appelle Variation au sujet d'un poème de Borges. Et il y a un poème de Borges qui dit le pion sur l'échiquier, il a pas conscience d'être joué par le joueur, et si ça se trouve, nous, c'est pareil, on est des pions et on est joué par une sorte de dieu. Mmh. Et donc, je raconte une partie d'échecs du point de vue d'un cavalier, et toutes les pièces de ce jeu d'échecs sont des espèces de machines de guerre, un peu à la japonaise, avec du chrome, de l'acier et tout, et puis ils se lèvent la gueule. Et donc, c'est un espèce de machin intermédiaire entre du délire métaphysico-borgésien, un peu de clin d'œil à la SF et un peu de clin d'œil à une esthétique un peu japonaise du robot de combat. Moi, j'aime bien mélanger des trucs un peu improbables comme ça.
Là, tu es un peu en train de divulgâcher cette nouvelle qu'on n'a pas encore vue. Mais pourquoi le cavalier ? Est-ce que c'est une pièce importante pour toi ?
Je l'ai écrit il y a longtemps, je me souviens pas. Non, mais si, c'est le personnage le plus swag et le plus difficile à prévoir à cause de la règle de déplacement, quoi. Mmh. Voilà.
Non, mais les travers, ouais.
Ça va être très intéressant. Rappelons que tu viens de sortir il y a quelques mois donc ton dernier roman chez Albin Michel Imaginaire, qui est La Nuit du Faune, qui lui par contre est du fantastique. C'est ton troisième roman.
C'est du coup, alors La Suum, c'est un roman qui a été publié en 2 tomes pour des raisons techniques et pas pour des raisons de fond. C'est-à-dire que c'était juste en grand format, on pouvait pas faire aussi gros. Donc l'éditeur a pris, on peut pas coller aussi gros. Mmh. Donc l'éditeur a pris la décision de le couper en deux. Mmh. Et quand il est ressorti en poche, ils ont gardé la coupe. Mais en fait, c'est vraiment un seul roman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation de narrative, il n'y a pas d'étape entre le tome 1 et le tome 2. Donc techniquement, La Nuit du Faune, c'est mon deuxième roman. C'est vrai qu'il y a une dimension fantastique, mais c'est un espèce de croisement entre du conte philosophique et de la science-fiction, pour être précis, en termes de positionnement.
Voilà. Alors c'est bien, on va pouvoir parler un peu des positionnements. La Suum Space Opera, là tu pars sur du fantastique, philosophie, science-fiction, comme tu viens de le dire. Est-ce que ces genres-là répondent à des besoins différents en termes de philosophie ? La science-fiction est censée être basée sur la science, le fantastique répond à des interrogations ?
Non, parce que en fait, la Nuit du Faune, il y a un très très fort contenu scientifique, plus que dans La Suum, en fait, paradoxalement. Dans La Suum, la référence à la science, souvent c'est une plaisanterie ou c'est un détournement. Là où dans La Nuit du Faune, j'ai une exactitude dans le traitement du fait scientifique beaucoup plus élevé en fait. Donc à l'inverse, c'est même l'inverse en fait. C'est-à-dire que la Nuit du Faune, c'est pas vraiment un roman de science-fiction. Par contre, tous les faits scientifiques qui sautent dedans, il y en a beaucoup, sont traités avec autant de précision possible voilà, je suis pas scientifique, j'ai juste une culture d'honnête homme, mais autant de précision que possible, en termes d'adéquation avec les théories scientifiques et notamment cosmologiques qui aujourd'hui sont considérées comme au moins celles qui sont établies pour l'instant, quoi.
D'accord. Comment est-ce que tu as fait pour acquérir ce savoir? C'est toi sur ta passion ou est-ce que tu as fait appel à des relecteurs
Non, c'est de la lecture personnelle.
D'accord. Ouais,
c'est de la lecture personnelle massive pendant des années et des années. Ouais, j'ai commencé à lire de la vulgarisation scientifique quand j'avais 11-12 ans et j'ai jamais arrêté, quoi.
D'accord. Et alors, dans ce cas, ton latium, d'où est-ce que ça vient? Puisque si jamais tu lis de la vulgarisation scientifique depuis tes 10-12 ans et que c'est ton deuxième roman, ça répond à quoi, latium? Qu'est-ce que tu voulais
raconter? Latium, j'avais envie de faire une espèce de... Alors, d'un point de vue littéraire, j'avais envie de faire une espèce de grand hommage à la fois à la grande science-fiction. Et j'avais envie de dire, on peut en français, ce qui n'était pas évident, en français écrire des œuvres de science-fiction qui sont avec le même niveau d'ambition que les grands anglo-saxons, et en même temps avec une spécificité française en termes de thématique, en termes de fond culturel et en termes de manière d'écrire. Parce que, en fait, dans le monde de la science-fiction, soit il y a des grandes épopées anglo-saxonnes, avec un matériau anglo-saxon, je veux dire, voilà, vous êtes Dan Simon, vous écrivez Hyperion, vous faites référence à de la poésie anglaise, vous faites référence à Shakespeare, soit vous avez des textes francophones qui sont un peu comme parfois comme du western spaghetti, c'est-à-dire c'est fait par des Italiens, donc vous sentez bien que ils savent pas exactement comment c'est en vrai, hein, le Far West, les Italiens. Bon. Et moi, ça, c'était un truc qui me posait problème, parce que je suis un gros amateur de science-fiction, j'en ai lu énormément. Avant ça, j'avais une grande curiosité scientifique, enfin, c'est vraiment un fil rouge pour moi. Voilà, j'ai bouffé toute la SF que je pouvais, mais j'avais cette frustration-là en me disant, il y a une caisse qui manque, c'est d'essayer d'écrire quelque chose qui soit un space opéra, donc vraiment le cœur de la science-fiction, au standard de ce que font les anglo-saxons. Bon, je dis pas que j'y suis arrivé, mais au moins j'ai essayé. Et donc latium, c'est pour ça que c'est très très gros. Ça a fonctionné comme ça. Ensuite, derrière, il y a aussi, je pense, latium, ça répond aussi, mais c'est toujours comme ça à la vie, à des motifs personnels. Moi, j'ai une formation classique, j'ai fait une prépa littéraire classique, j'ai fait du latin et du grec ancien, j'en ai fait beaucoup. C'est aussi une sorte d'hommage à mon propre passé, parce que c'est un texte qui est vraiment très, très imprégné de littérature classique, de référence à Platon, etc. Et j'avais envie de faire cette espèce d'hommage avant de passer à autre chose. Et donc c'est une sorte aussi de... C'est pas une pierre tombale, mais c'est aussi un moment de nostalgie personnelle. Voilà. La Nuit du Faune, ça fonctionne selon un régime complètement différent.
D'accord. Les deux romans, donc tu mets des notions qui sont quand même extrêmement pointues, même si c'est accessible par tout le monde. Je rentre sur une question un petit peu délicate. Est-ce que ça serait pour ça qu'on a fait appel à toi dans la Red Team?
Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait appel à moi dans la Red Team parce que des auteurs de science-fiction qui étaient disposés à bosser pour le ministère des Armées, il y en avait pas 50. Donc je pense qu'ils ont fait un choix contraint. Enfin, je dis pas qu'ils m'aiment pas, hein, mais je pense qu'ils avaient pas non plus énormément d'options. Hein.
Alors, on va juste recaser un peu les choses. La Red Team, c'est donc un ensemble d'auteurs de science-fiction qui sont là pour imaginer les guerres de demain et donner un savoir aux armées de manière à s'y préparer. Je me trompe?
C'est ça. C'est-à-dire qu'on est une équipe. Mm-hmm. On travaille comme des scénaristes de science-fiction. Comme des scénaristes d'une série de science-fiction, quoi, pour essayer de décrire des menaces qui sont des menaces du futur qui sortiraient pas spontanément de la planification telle que le pratique le ministère des Armées.
D'accord. Et toi, tu y es à visage découvert, on va dire. C'est comme ça, puisque ton nom est su.
Ouais, ouais.
Pourquoi ce choix?
Pourquoi à visage découvert?
Oui.
Je suis citoyen français, je paye mes impôts. J'ai aucun problème à bosser pour le ministère des Armées. Dans ma vie professionnelle, par ailleurs, je l'ai fait aussi comme consultant. Quand on bosse dans le secteur privé, qu'on n'est pas prof ou infirmière ou pompier, on n'a pas souvent l'occasion de servir le collectif. Là, c'est une occasion. En plus, sur quelque chose qui est un peu un cœur de métier pour moi, qui est de la SF, mais qui est quand même assez rarement utile, quoi. Enfin, oui. C'est agréable de lire un bouquin de SF, mais c'est rarement utile. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Et donc, à un tout petit niveau, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un tout petit niveau, avoir un peu d'utilité sociale. Et bah, pour moi, l'institution militaire, elle existe, elle est payée par des impôts dans un État démocratique. Donc, elle a une utilité sociale, en tout cas validée par le collectif, sinon on arrêterait d'avoir des armées. Bah, ça ne me pose aucun problème.
C'est plutôt une bonne réponse. Alors, rappelons que dans cette équipe où vous êtes une dizaine d'auteurs, vous en êtes trois à être à visage découvert, si je me souviens bien.
Oui, alors il y a des auteurs, il y a des auteurs, il y a des designers, il y a des BDastes, etc. Enfin, il n'y a pas que des auteurs de SF, mais oui, il y en a certains qui ne sont pas à visage découvert. Mmh. Oui. Bah, c'est pas,
oh, non, non, y a
c'est pas grave.
Laurent Genefort s'est déclaré aussi.
Actuellement, donc, tu as un emploi comme tout un chacun. Ouais. Et est-ce que cet emploi t'a donné quelque chose, puisque ça fait un moment que tu y es, est-ce que ça t'a donné matière à réflexion pour ta nuit du faune?
Alors, pour la nuit du faune, non. Mais moi, je suis consultant depuis toujours. Mmh. Dans mes travaux de consultant, il y a toujours une grande dimension de prospective. Alors, comme c'est de la prospective à 30 ans et que je fais de la science-fiction à 500 000 ans, ça matche pas. il y a quand même un lien un peu profond entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, mon boulot comme consultant, alors maintenant je suis à la Caisse des dépôts et je dirige la filiale de conseil dont la Caisse des dépôts est actionnaire, qui s'appelle l'ACET. Et un de nos boulots dans cette équipe qui fait pas mal de monde, hein, on est 400, c'est de faire ce qu'on appelle de la prospective territoriale, c'est-à-dire un territoire ou les territoires généralement, enfin, voilà, régions, communes, etc. C'est quoi leurs besoins prospectifs? Comment le territoire va se transformer? Comment on va intégrer la transition environnementale dans ce qu'on appelle la planification urbaine? Quel est le visage de la ville de demain? Enfin, voilà, c'est des choses. Quel est le visage de la ville de demain? Ça, c'est un truc sur lequel je serais susceptible d'écrire aussi comme romancier. Donc il y a des ponts, c'est pas des trucs linéaires et massifs, mais il y a des ponts qui sont effectivement cette question. Voilà, j'ai une certaine curiosité. J'ai une certaine curiosité quant à essayer d'imaginer des avenirs, ce que je trouve toujours très compliqué et délicat, et c'est ce côté compliqué et délicat que j'aime bien, voilà, détricoter les choses, quoi. Donc là, il y a un lien, clairement.
On va rentrer sur une époque de présidentielle, donc ouais, avec des gens qui se présentent. Est-ce que ça serait pas intéressant d'intégrer des auteurs aux équipes présidentielles pour imaginer les sociétés de demain, autant que la Red Team intègre des auteurs pour avoir des...
Alors, il y a eu un auteur de SF qui a été dans l'équipe d'un candidat aux dernières présidentielles. C'était dans l'équipe socialiste. Ça a pas fait un score incroyable, mais je pense pas que ce soit de sa faute. C'était vache. Surtout coupez pas au montage ça. non, blague à part. Alors la réponse de mon point de vue est non. Pourquoi? Parce que nous, enfin, moi je pense qu'en tant qu'auteur de science-fiction, en réalité, ce que je fais, c'est pas imaginer l'avenir. Ce que je fais, c'est travailler les peurs du présent à l'égard de l'avenir, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que les grands bouquins de science-fiction, même d'ailleurs pas que les grands bouquins de science-fiction, les bouquins de science-fiction en général, c'est vraiment des machines à détecter les peurs d'une époque, mm-hmm, et à les projeter. Et en fait, l'avenir, ça sert juste à projeter, à faire grandir cette peur. Et en fait, un roman de science-fiction, souvent, c'est fondé sur la peur. 1984, c'est la peur du totalitarisme. Le meilleur des mondes, la guerre des mondes de Wells, Dune de Frank Herbert avec l'écologie. Enfin, on peut multiplier les époques et les romans. Et c'est toujours fondamentalement cette notion de peur. La peur de l'effondrement, la peur de la fin de la civilisation, la peur de la fin de l'individualité ou de la fin de la liberté. Tout ça, c'est des thématiques. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, dans mes romans, je travaille aussi ces notions de peur. Enfin, voilà, enfin, tous mes romans, ils se passent après. Enfin, tous mes romans, ils se passent après la mort de l'humanité. Hein. C'est l'humanité a disparu et c'est acté. Et donc assez systématiquement dans mes romans. Alors là, je vais spoiler un tout petit peu. J'en suis désolé pour des lecteurs futurs, mais il y a toujours un humain. Il y en a qu'un seul. Le dernier survivant. Et il n'est pas facile à trouver en général. Il est caché dans le roman. Il faut bien lire le roman pour trouver le dernier humain, notamment dans La Nuit du Faune. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose que voilà. Et donc, moi, je travaille sur une peur qui est une peur actuelle, qui est la peur de l'effondrement de l'environnement et de la disparition de l'humanité.
Donc, l'imaginaire, en plus d'être prospectif, elle est catharsiste.
Exactement, ça je suis d'accord pour le coup. C'est-à-dire que la notion de catharsis, cette idée selon laquelle effectivement dans l'œuvre littéraire on travaille sur un certain nombre de passions, et que ce travail sur les passions, qui est une sorte de travail au second degré, c'est-à-dire je contemple un spectacle qui me montre de la peur, mais sauf que moi je ressens une forme de peur qui est une peur épurée, une peur travaillée, une peur esthétique. C'est pas une peur au premier degré, c'est pas la peur que je ressens quand je vois une voiture qui me fonce dessus. Voilà. ça crée effectivement un phénomène de catharsis. Et d'une certaine manière, c'est là qu'il peut y avoir une utilité de la science-fiction. Ça aide à se préparer à l'inconcevable ou l'inimaginable futur. Voilà, et c'est un exemple que moi j'aime bien, c'est de dire, si on n'avait pas lu tous ces bouquins de zombies, quand on a vu les rues des villes désertes vides au moment de la pandémie, on aurait tous flippé à mort. Et en fait, on s'est juste dit, bah, en fait, c'est un scénario de film de zombies. On connaît le scénario puisqu'on l'a vu 50 fois, donc on est resté tranquille chez nous, on a fait des stocks de PQ, et puis ça s'est bien passé.
Vous parlez beaucoup de prospectives finalement, tout se passe très longtemps dans le futur, il y a peu d'humains, on est dans du temps long, on est dans de la vision longue, vous prenez beaucoup de recul, ça fait penser un peu à Michel Serres qui avant qu'il décède évidemment, parlait beaucoup du temps long et qui prenait aussi ce pas de recul vers l'arrière pour avoir une vision globale. Est-ce que vous positionner comme essayant d'avoir une vision globale et en essayant de s'écarter de finalement de toute la frénésie actuelle, des peurs pour vraiment voir où est l'essentiel.
Ouais, moi je me targue d'essayer de construire une vision existentielle ou de travailler des enjeux existentiels. C'est la liberté des choses, la liberté, la mort, l'angoisse face au néant, des choses qui normalement ne bougent pas d'un siècle à l'autre. Et donc, du coup, je place mes histoires, en effet, sur des temps tels que la tentation du court terme n'existe plus. Je pense, par exemple, qu'il y a des formes d'écriture d'anticipation. Alors, quand on regarde le 19e siècle, on rigole toujours parce qu'on dit, on regarde la façon dont le 19e siècle imaginait le 20e siècle. Et alors, les mecs s'imaginaient qu'il y aurait des bicyclettes volantes. Bon, et on dirait qu'ils étaient cons. Mais en fait, on fait ça tout le temps. C'est-à-dire, on extrapole à 30 ans, on voit des choses qui nous semblent très importantes aujourd'hui, mais en fait, ces choses-là, dans 10 ans, elles seront juste caduques et on aura la ridicule. Et ça nous emprisonne. Ça nous emprisonne. Par exemple, aujourd'hui, on dit « Ah, l'intelligence artificielle ». L'intelligence artificielle, dans 30 ans, on sera à peu près au même point. C'est-à-dire, ce sera toujours du machine learning. Et on aura dégonflé la bulle. Bon, même, je pense que c'est plutôt dans 10 ans, voire dans 5 ans. Et ben, moi, mon sujet, c'est pas de traiter ces espèces de bulles. Mon sujet, c'est d'essayer de détourer des trucs qui sont des vraies grosses angoisses qu'on a et qu'on a toujours eues, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, mes intelligences artificielles, elles sont prisonnières de leur programmation. Vraiment. Et donc, elles se posent la question de la liberté. Et en fait, c'est une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. Mmh. C'est une vraie question de fond. Pas éternelle, mais quand même un peu, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai envie de travailler. C'est pour ça qu'en effet, à chaque fois, je place mes histoires sur des temps extrêmement longs.
Et d'ailleurs, les thématiques grecques, justement, les Grecs nous ont apporté beaucoup de choses et qu'on a repris, auxquelles on fait encore référence aujourd'hui. C'est peut-être pas hasard si on les trouve dans la Sium.
Alors, oui, de toute façon, la charpente philosophique de l'Occident, c'est la Grèce, mais c'est aussi une manière de... C'est aussi une manière pour moi de retisser le lien entre la science-fiction produite au XXIe siècle et la culture, la culture française et la culture française dans ses origines. C'est-à-dire que, en fait, dans la Sium, il y a au moins trois strates temporelles du passé qui sont représentées. Il y a l'Antiquité grecque, l'Antiquité latine et la manière dont le grand siècle, à travers par exemple la tragédie de Racine et de Corneille, s'est approprié la tragédie grecque et latine pour s'ennoblir d'une certaine manière en disant quand Racine met en scène des personnages de l'Antiquité, quand on écrit l'histoire de Louis XIV en disant c'est la Franciade et puis on va faire une épopée comme si c'était l'Énéide, c'est une manière d'enraciner la France dans un espèce dans une latinité, dans une continuité avec l'Empire romain, avec les Grecs, avec Athènes, avec la guerre de Troie, etc. Mm-hmm. Et j'ai essayé de retrouver ça et de rattraper ça pour pas être hors sol, pour pas être en train de faire justement pour essayer de proposer une science-fiction qui est à la fois vraiment de la science-fiction, en même temps vraiment de la littérature française. Et L'ennemi du faune, mon dernier roman, c'est un conte philosophique, c'est écrit comme un conte philosophique, et ça, c'est un genre vraiment français. C'est un truc, on l'a oublié, mais une bonne partie de la production littéraire française, c'est le conte philosophique. C'est vraiment un truc français, ça. Enfin, pas que les Français qui le font, mais c'est vraiment un truc identitaire. Tout le monde connaît, tout le monde connaît Candide, quoi. Et on n'en écrit plus, des contes philosophiques. Bon, j'en écris un.
Le temps passe, on va passer au portrait chinois.
Allez,
est-ce que tu es prêt ? Si jamais tu aurais dû être une divinité antique.
Oh, Athéna.
Athéna.
Oh, bah oui, déesse de la sagesse et en même temps déesse de la guerre. Génial, classe.
Pas mal. C'est pas mal. Et puis, alors, c'est court et concis. Une civilisation de science-fiction.
La culture de Yann Banks. Non, ça vous dit rien ?
Si, mais j'aimerais bien que tu le dises à des personnes.
La culture de Yann Banks, c'est une société utopique, idéale, dans laquelle les intelligences artificielles gèrent toute l'infrastructure et la politique. Il n'y a plus de pénurie, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'économie parce que c'est l'abondance absolue. Et en même temps, qui est confronté à plein de défis partout. Et donc, c'est assez génial, quoi.
Comme je te le disais, c'est toi qui as le choix pour la musique de fin. Et je vais te laisser nous la présenter.
Bah, le générique de Star Trek, vers l'infini et au-delà, ouais. Qui, moi, me semble extrêmement illustratif de ce que j'ai bien envie d'écrire, enfin, de ce que j'ai pu écrire, de ce que j'ai bien envie d'écrire.
Merci beaucoup pour tout ton temps.
Merci, au revoir.
Au plaisir de te retrouver.
Meurs d'envie de nous faire en karaoké ce générique de Star Trek.
Ah ben je te fais ce que tu veux en karaoké, je fais super bien les temps de silence. Pas de soucis, je te tiens toute une musique avec du temps de silence. J'ai le droit de parler ou...
Eh oui.
Très bien, parce que j'ai un livre dont je tiens à vous parler, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais là j'ai un livre que je vous montre. La radio, c'est hyper pratique.
Waouh! N'est-ce
pas? Qui s'appelle Nos Futurs Solidaires. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? D'abord parce que ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti. Il est sorti par, il a été préparé par ActuSF. Date de publication pour avril 2022, autrement dit, il est chaud brûlant. C'est de l'actualité. Après avoir sorti par De l'Horizon, une anthologie sur le futur, Nos Futurs, une anthologie sur l'écologie, ActuSF sort une anthologie qui s'appelle Nos Futurs Solidaires. 14 nouvelles de science-fiction qui réinventent la solidarité. Et oui, vu les temps qui courent, 2021 et sans doute 2022, vu comment ça a commencé, ça serait bien d'avoir un petit peu d'espoir. Et il y a un nouveau genre littéraire qui s'est créé, qui s'appelle le solarpunk. On réinvente l'histoire, on réinvente le futur avec des pensées positives, parce qu'on en a marre des dystopies, des uchronies, d'ailleurs, et ce qui fait chier.
Les dystopies, je crois que ce sera le prochain thème de l'Angers Geek Fest.
Exactement, utopie, dystopie, ouais. Tu as raison.
Ah oui, utopie aussi quand même. Oui, qui aura lieu d'ailleurs dystopie. Exactement dans un an, ils ont déjà tenu la date.
1 et 2 avril 2023. Au sommaire de ces 14 nouvelles, cette collection dirigée par Ariel Kirou, qui avait déjà sorti une sorte d'anthologie sur le futur et les imaginaires dans le futur, il imaginait, suivant les évolutions de la science, qu'est-ce qu'on imaginera dans le futur. C'est une sorte de science-fiction du futur. Eh bien, on retrouve des auteurs que j'affectionne particulièrement pour leur prise de position. L'ICAM, qui avait écrit plusieurs fois sur les neuroatypiques, les autistes, les personnes avec une façon de penser un petit peu alternative. Et là, la solidarité dedans. On retrouve Audrey Plenet avec Entrer en résonance et surtout les relations humaines qu'il y aura dans le futur. Chloé Chevalier, Catherine Dufour, Anne-Sophie Devries, Philippe Curval, Sabrina Calvo, Michael Rock, Léo Henry, Norbert Merjanian, Sylvie Lenné, Katie Stewart. Que du beau monde pour vous donner envie de vivre dans le futur et surtout de survivre au présent.
Ok. Et d'ailleurs, j'ai entendu des noms de gens qui seront au prochain salon imaginaire.
Michael Rock, Afrofuturisme.
Au salon Kurnonski. Prochaine émission dans deux semaines, je pense qu'on interviewera quelqu'un aussi qu'on recevra au salon. On va encore deux, trois émissions avant. On va recevoir avant des gens qui y seront invités. Ce sera tout pour aujourd'hui.
Malheureusement, oui.
Ma voix est en train de s'éteindre. C'est The Death of My Voice. On va s'écouter The Death of Pop, groupe anglais qui seront dimanche prochain au Garage. Ils joueront à 20h pour ceux qui n'ont rien à foutre des résultats du premier tour des élections. Voilà, excellente pop music anglaise. Allez, bye bye, et dans deux minutes, les voix du Scénarium sur Radio G.
Bonne soirée. Oh,
I try to lose you.